Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est, vous le savez, tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Astrigue Cyranocian. Bonjour Astrigue.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Astrigue Cyranocian, vous êtes musicienne, violoncelliste, et ça depuis votre tendre enfance.
Depuis ma toute petite enfance même. D'ailleurs, je n'ai absolument pas de souvenir de mon enfance sans instrument, sans violoncelle. Donc finalement, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi avec mon violoncelle, avec un instrument, mon archet dans la main droite, mon violoncelle dans la main gauche, et le tout sur le dos quand je ne suis pas assise en train de jouer du violoncelle. Donc voilà.
Ah oui, c'est-à-dire que vous avez aussi cette idée-là du poids du violoncelle sur votre dos qui ne vous a jamais...
Exactement, ça fait partie de l'apprentissage du violoncelle, de porter son violoncelle une fois qu'on ne joue pas. On se balade avec dans la rue, donc on le met sur son dos. Voilà, c'est vraiment mignon maintenant quand je vois des enfants qui jouent du violoncelle et qui portent le violoncelle. Ouais. D'ailleurs, quand je voyage maintenant, très rarement d'ailleurs, sans mon violoncelle, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose ou alors qu'il me manque... un membre, voilà.
Une partie de vous-même.
Une partie de vous, moi-même, exactement.
Alors Astrigue Cyranocian, vous ne vous souvenez pas exactement de la date de votre journée particulière. Ce dont vous vous souvenez, c'est que c'était au mois d'octobre 1994.
Exactement.
Ce jour-là, vous donniez votre premier concert.
Exactement.
De violoncelle.
De violoncelle, oui.
Et vous aviez quel âge ?
Eh bien, j'avais 5 ans. Donc j'avais appris le violoncelle depuis déjà quelques mois, quelques années, parce que j'avais commencé par le violon, étant enfant, j'avais à peine 2 ans, c'était plutôt comme à jouer. Et puis, donc, premier concert avec du public, et j'ai un souvenir très très marqué de moi, derrière mon violoncelle, avec du public devant moi, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée à cette époque-là, et je m'en souviens très souvent. D'ailleurs, très souvent, j'ai des flashs quand je suis sur scène de cette image que j'ai eue de moi, enfant, ce premier concert avec du public devant moi. Il y avait tout un tas de questionnements, tout un tas de sentiments sur lesquels je ne pouvais pas poser de mots à l'époque, mais voilà, c'est un souvenir très 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 marquant pour moi.
Et ce jour-là, du mois d'octobre 1994, vous avez joué le concerto numéro 5 pour violoncelle,
oui,
de Vivaldi. Astrigue Cyranocian, quand vous écoutez ce concerto de Vivaldi, vous reviennent tous vos souvenirs ?
Oui, c'est très émouvant pour moi. C'est très émouvant comme souvenir, puisque la musique, je pense, j'en suis certaine même, reste gravée. Et puis quand on a un souvenir lié à la musique, ça fait éclore tout un tas de sentiments et de souvenirs. Et voilà, alors concerto de Vivaldi, pour moi, c'était... l'impression d'être une grande, de monter sur scène, d'interpréter un compositeur merveilleux, plein de couleurs, Vivaldi. Et puis c'était une pièce difficile, parce qu'au début il y a un mouvement lent, et puis après un mouvement rapide. Voilà, c'est rigolo, parce que finalement, depuis cette journée, j'ai l'impression que tout ce que j'ai continué à faire et que je continue à faire, c'est une extension, en fait, de cette journée, de ce sentiment enfant de monter sur scène et d'interpréter une œuvre que j'adorais. C'était vraiment pour moi l'œuvre la plus merveilleuse de cette époque. Enfin voilà, ou même jusqu'à maintenant quand je l'écoute, ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté à vrai dire.
Ah oui.
Mais voilà, j'avais l'impression que j'étais vraiment en train de jouer quelque chose de fabuleux. Ouais, c'est indescriptible finalement. J'ai du mal à mettre des mots dessus.
Est-ce que vous vous souvenez de la robe que vous portiez ce jour-là? Vous étiez toute mignonne, toute jolie, on vous avait bien habillée.
Exactement, j'avais une robe, j'avais l'impression d'être une princesse. Ma maman m'avait acheté une robe avec des volants, du velours. Elle était un petit peu courte, avec des collants un petit peu pailletés, puis des chaussures noires et dorées. D'ailleurs, je porte jusqu'à maintenant des chaussures noires et dorées en concert.
Pour vous porter chance.
Voilà, et j'étais tellement heureuse. J'ai toujours cette petite robe d'ailleurs dans mon placard.
Ah, vous l'avez gardée?
Oui, je l'ai gardée, ouais. C'était trop mignon. Et puis voilà, ça représente beaucoup de choses pour moi, cette tenue, comme ce concert et comme moi enfant, jouant du violoncelle.
Vous dites, je me posais des questions, j'avais un questionnement sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots encore. Vous aviez 5 ans le jour de ce premier concert. Quelles sont ces questions maintenant que vous pouvez mettre les mots? Quelles sont vos pensées, les questions que déjà vous effleuriez à l'âge de 5 ans?
Eh bien déjà, quand on monte sur scène et qu'on a du public assis, on se dit, mais est-ce que les gens trouvent que c'est bien? Est-ce qu'ils ne s'ennuient pas? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que c'est joli? Est-ce que je ne vais pas avoir un trou de mémoire? Est-ce que j'ai bien serré ma pique de violoncelle pour pas qu'il tombe? Est-ce que mon archet est bien tendu? Est-ce que j'ai mis de la colophane? Est-ce que je suis bien coiffée? Voilà, c'est tout un tas de questions que j'ai toujours jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et je pense que cette remise en question, c'était la première fois finalement que j'étais confrontée à ça en direct sur scène. Alors après, on travaille sur la remise en question quand on est musicien, on essaie de l'anticiper pour pas être submergé de sentiments quand on monte sur scène. Mais oui, c'est des questions évidemment. C'est un sentiment très particulier de monter sur scène, d'avoir un public et de se dire « Ah oui, c'est maintenant, faut que je joue ».
Vous avez eu peur? Vous aviez le trac?
Je peux pas vraiment dire le trac, c'était plutôt des questionnements. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu le trac dans ma vie. Peut-être parce que j'ai eu l'entraînement de monter sur scène très vite. Donc toutes ces questions qui peuvent être source de trac et des sentiments malaisants, finalement je suis habituée depuis très longtemps. Donc je me suis habituée et puis j'essaie de les anticiper, j'ai essayé de travailler dessus très très tôt. Donc ce qui fait que je n'ai jamais eu ce sentiment de trac, de panique avant de monter sur scène. Non, une conscience de vouloir bien faire pour éviter d'avoir sur le moment de monter sur scène ces questionnements, c'est certain, mais pas de trac, pas une espèce d'envie de vomir avant de monter sur scène que peuvent avoir certains musiciens, non. Mais c'est encore une fois, je pense, la chance d'avoir pu monter sur scène dès mon plus jeune âge.
Astrid Serrano-Sian, vous êtes ce qu'on appelle une enfant prodige. Vous étiez surdouée, vos parents sont musiciens?
Oui, mon père était directeur d'un conservatoire, pianiste et chef d'orchestre. Ma mère travaille dans le vin, donc enfant j'ai choisi la voie musicale.
Et c'est vous qui avez vraiment choisi le violoncelle? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez commencé par jouer du violon.
Oui.
Et vous avez eu un coup de foudre pour le violoncelle? C'est votre choix ou celui de votre père?
Alors, j'ai une grande sœur qui s'appelle Chouchane, qui est violoniste, donc évidemment elle a 4 ans et demi de plus que moi, donc je voulais faire comme ma grande sœur. Et donc tout naturellement, j'ai demandé un violon pour faire comme ma grande sœur. Et puis, à l'âge de 4 ans, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop fatigant d'être constamment debout et que j'avais mal au cou. Donc j'ai demandé à mes parents, j'ai dit « Oh, moi je veux être assise, je veux avoir un gros violon assise ». J'avais dû voir un violoncelle quelque part, je pense. Et donc ça, mes parents trouvaient ça tellement mignon que je demande à être assise et que voilà, je n'avais absolument aucun souhait d'avoir mal au cou. Donc c'était le violoncelle. D'ailleurs, c'est un choix que je n'ai jamais regretté. Et puis, il faut dire que morphologiquement aussi, le violoncelle me convient mieux parce que j'ai des mains un petit, j'ai des longs doigts. Donc, c'est vrai que le violon aurait été peut-être un peu trop rikiki pour moi. Et puis, j'adore être assise derrière mon violoncelle.
Certains comparent le violoncelle à un corps, à un enlacement.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un compagnon de vie. J'ai constamment l'impression d'être accompagnée. Dans l'avion, j'ai 2 billets d'avion. Il voyage à côté de moi. Côté hublot, voilà. Il faut toujours réfléchir dans la voiture. Il y a toujours le violoncelle, la place du violoncelle. Voilà, donc... oui, j'ai toujours... Puis c'est mignon parce qu'un violoncelle, en fait, ça grandit. Il y a des toute petite taille. Et puis quand on arrive enfin à la taille du violoncelle entier,
voilà, on est fiers.
On est fiers.
On a une grosse boîte.
Exactement. J'ai une grosse boîte bien lourde d'ailleurs, qu'on regrette un petit peu. Mais non, c'est-à-dire que l'évolution du violoncelle, c'est un peu l'évolution de la croissance. Et
oui, vous avez grandi avec votre violoncelle, mais votre violoncelle a grandi avec vous.
Exactement.
Alors on va vous écouter, Astrix Cyrano-Cyr, maintenant. Astrix Cyrano-Cyr, je vous laisse désannoncer, qu'est-ce que l'on vient d'écouter ?
Oui, alors nous venons d'écouter la première pièce pour violoncelle et piano de Nadia Boulanger en mi bémol mineur. Et j'avais la grande chance d'être accompagnée par Daniel Barenboim au piano.
Grande chance. Alors Nadia Boulanger était une pédagogue et une musicienne de génie. À qui vous rendez hommage ?
Oui.
Astrix Cyrano-Cyr, dans votre dernier disque qui s'appelle « Dear Mademoiselle ».
Oui, dire c'est, mademoiselle.
C'est comme ça qu'on l'appelait?
Alors, on l'appelait mademoiselle. On l'appelait mademoiselle Boulanger, mademoiselle Nadia Boulanger. Mais c'est en étudiant ces correspondances que j'ai trouvé la récurrence de la dénomination mademoiselle extrêmement charmante. Même quand ses élèves ou ses amis s'adressaient à elle en anglais, le mademoiselle restait. C'était dear mademoiselle. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment aussi un symbole qui la caractérise entre la France et les États-Unis, cette espèce de mélange entre l'anglais, le français, et puis voilà, le fait que c'était vraiment une fierté pour elle d'être une mademoiselle. Et puis voilà, je trouvais ça très mignon. Il faut toujours trouver des titres d'albums, et je trouvais que celui-là était vraiment cohérent.
Alors dans cet album, vous reprenez des compositions de ses élèves, oui, parmi les plus célèbres. On va y revenir, mais alors qui était cette Nadia Boulanger pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas?
Alors Nadia Boulanger, c'est vraiment la grande dame de la musique. Elle est née à Paris en 1887, elle est décédée dans cette même ville en 1979. Et elle a vraiment vu passer dans sa classe, dans son appartement, dans ses classes, oui, à peu près 1500 élèves ou 1600. Enfin, le nombre est absolument dément. Et parmi ces élèves, il y a donc un éventail impressionnant de musiciens très connus que nous connaissons, comme Michel Legrand, Quincy Jones, Daniel Barenboim, Philip Glass, Astor Piazzolla, Elliot Carter, voilà. Et j'ai été fascinée, en fait, en découvrant l'éventail incroyable que permet le XXe siècle. Il faut dire qu'au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, si on prend, je veux dire, les élèves d'un professeur, la diversité musicale n'est pas du tout celle qu'on peut trouver au XXe siècle. Et donc cette richesse du XXe siècle, je l'ai trouvée absolument géniale à mettre sur disque et surtout au violoncelle. Le disque est au violoncelle et piano avec deux instruments assez traditionnels. Mon violoncelle étant de 1676, je me suis dit que c'était assez rigolo de montrer que la musique reste de la musique. Il n'y a pas de musique classique, il n'y a pas d'instrument pour interpréter que du Vivaldi ou que du Mozart. Voilà, un violoncelle et un piano peuvent interpréter du Quincy Jones, du Michel Legrand, et le tout venant dans l'enseignement de Nadia Boulanger. C'était vraiment ce qui m'a vraiment intéressée de montrer et puis d'ouvrir aussi.
Alors Nadia Boulanger était une grande, grande pédagogue. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui vous a intéressé, vous, à Astrix Cyranocian, parce que vous avez eu des professeurs et on sait comme les professeurs de musique sont bien plus que des professeurs.
Oui, un professeur de violoncelle ou un professeur de musique ou un professeur tout simplement, c'est quelqu'un qui peut vraiment être la rencontre, qui va ouvrir une voie extraordinaire pour un dans le futur. Je veux dire, si je n'avais pas eu une succession de professeurs vraiment exceptionnelle, je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais et Nadia Boulanger a vraiment été ce déclencheur humain et musical pour beaucoup d'élèves qu'elle a eu, beaucoup de grands musiciens. Et c'est ce qui m'a énormément touchée. Je pense que malheureusement, on oublie souvent les professeurs qui ont fait ce que nous sommes. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai encore des contacts avec ma toute première professeure de violoncelle qui s'appelle Marie-France Hubert, qui m'a démarré quand j'avais 4 ans. Et je suis en contact avec elle et voilà, donc j'ai vraiment une tendresse pour les professeurs et je pense que c'est aussi important de montrer, après évidemment le fait que c'est une femme, qu'elle ait été française, pour moi ça me parlait beaucoup et voilà, d'avoir vu aussi autant d'hommes et les musiciens qui lui rendent hommage, je trouvais que c'était vraiment une belle histoire à raconter.
Alors je vous propose qu'on écoute Nadia Boulanger, c'est une archive de 1973, elle avait 86 ans.
Ce qui me frappe, j'adore enseigner, j'enseigne, il va bientôt y avoir 70 ans, j'ai pu faire beaucoup d'expériences. Et je trouve que c'est la faculté de prendre part. C'est une première faculté d'émotion. C'est une première faculté d'amour, je dirais. Alors, quelqu'un aime la musique, ou aime la poésie, enfin aime, et il prend part. Mais il donne de lui-même. Si il se croit obligé de prendre part, si c'est une question d'éducation, ça ne mène à rien. Mais s'il n'y a que l'amour et qu'il n'y a aucune connaissance, je suppose, je ne me rends pas bien compte, j'ai fait de la musique toute ma vie, je ne sais pas ce que c'est d'écouter de la musique sans la connaître, c'est une notion que je n'ai pas. Mais je suppose que si on amenait l'enfant, quel que soit l'enfant et quel que soit son avenir, à prendre une notion du son, du temps, de l'évolution des rythmes, de la perception du rythme, des éléments essentiels de la musique, je crois qu'on augmenterait extraordinairement sa faculté d'aimer.
Astrix Cyranocian, oui. Vous êtes d'accord, c'est magnifique.
Oui, c'est bouleversant. Moi, je trouve que, voilà, de l'entendre, de l'écouter, c'est vraiment bouleversant ce qu'elle dit et c'est tellement juste.
Vous pensez que ça a augmenté votre capacité d'aimer, de faire de la musique?
Ben, l'augmenter, il aurait fallu que je commence la musique après avoir commencé à aimer. Alors j'ai l'impression d'avoir toute ma vie vécu à travers la musique. Je pense que même quand ma mère était enceinte de moi, elle écoutait beaucoup, beaucoup de musique. Et donc je pense que mes parents ont vraiment compris que la musique était un élément qui pouvait être merveilleux dans la vie d'une personne. Et ils ont voulu me transmettre ça très, très, très vite. Et voilà, l'omniprésence de la musique, je pense... est un facteur qui fait que j'aime à peu près, enfin j'aime beaucoup beaucoup de choses dans la vie. C'est vrai que je n'ai pas vraiment de sentiment de haine ou quoi que ce soit, et la musique j'en écoute très souvent, je l'étudie et ça a vraiment des facultés extraordinaires, ouais, pour ouvrir le cœur. Le cœur étant un muscle sans fin qui peut aimer et se dilater sans aucune fin. Voilà, je pense que la musique, en tout cas, il me serait difficile d'enlever la musique de ma vie, ça c'est certain.
Bah, c'est impossible.
C'est impossible, oui, parce qu'elle tourne dans ma tête. Si je ne l'écoute pas, je me projette en train de jouer une œuvre. Ou voilà, il y a tellement de choses aussi à découvrir en musique. Oui.
Astrid Cyranocian, qui vous a parlé la première fois de Nadia Boulanger? Je crois que c'est justement Daniel Barenboim.
Alors, personnellement, oui, c'est la première personne qui m'a vraiment raconté une expérience et un passé avec Nadia Boulanger. C'était très émouvant parce que je connaissais Daniel Barenboim, je ne savais pas. Enfin, je savais qu'il avait étudié avec elle, je ne savais pas vraiment à quelle période, et je n'avais jamais vraiment osé lui poser la question. C'est assez intrusif de poser des questions, surtout
un grand maître
voilà, comme Daniel Barenboim. Et puis il m'en a parlé, et puis il m'en parle souvent. J'étais avec lui il y a quelques jours, et puis nous parlions de Beethoven, et puis il m'a dit « Oh, Astrid, tu te souviens ?» ce que pouvait enseigner Nadia Boulanger, Mademoiselle Boulanger. Il parlait du contrepoint, et elle lui avait dit que le contrepoint était l'art de l'élégance. C'est-à-dire que... Et voilà, donc c'est très émouvant parce qu'il a étudié avec elle il y a 70 ans et il en parle comme si c'était hier.
Alors, on va écouter Daniel Barenboim qui va nous raconter son premier rendez-vous avec donc Mademoiselle Nadia Boulanger. Il n'avait que 12 ans.
Elle me semblait très vieille. Peut-être elle avait seulement 60 ans, donc moins que moi maintenant. Mais à l'époque, elle me semblait biblique. Les doigts, la peau toute sèche, les lèvres sans rouge, évidemment. Sèche comme tout. Un regard très vif, avec ses lunettes. Elle me fait asseoir devant le piano. Elle est tombée sur le prélude à mi bémol mineur de Bach. Et elle me dit, voilà mon petit, tu vas me jouer ça en la mineur. Alors, vous pouvez vous imaginer, j'étais complètement... Et elle avait, comment ça s'appelle en français, ruler.
Une petite règle.
Une règle, en bois. Elle était assise à ma gauche, et moi je commençais à faire la transposition. J'avais pas fait ça de ma vie, c'était très difficile. Et chaque fois que je jouais une fausse note, elle allait avec une précision vraiment militaire, avec cette règle en bois, sur le doigt qui avait fait l'erreur. Ça me restait jusqu'à aujourd'hui.
Vous saviez ça?
Oui, il m'avait raconté cette histoire, j'avais trouvé ça... génial.
Mais elle était terrible, cette Nadia Boulanger.
Elle était terrible, mais surtout, je ris beaucoup en me disant, mais si maintenant un professeur avait ces mêmes méthodes, qu'est-ce qu'on dirait d'elle ou qu'est-ce qu'on dirait de lui dans 60 ans?
Certains de ses élèves disent quand même que c'était un tyran, qu'elle était intransigeante, intraitable, insatiable.
Oui, c'est sûrement vrai. Mais je pense que, malgré tout, elle faisait ça dans un but, non pas d'être uniquement tyrannique, mais c'est parce que pour elle, il n'y avait pas de concession face à la musique. Donc je pense que c'était une manière de transmettre, finalement, l'exigence qu'elle avait et qu'elle a toujours gardée vis-à-vis de la musique pour elle-même. Elle était très dure, d'ailleurs, au niveau de la composition. Très peu de gens savent qu'elle a composé, parce qu'elle trouvait sa musique complètement inutile. Donc elle n'a jamais voulu que ses œuvres soient jouées. Ses pièces pour violoncelle et piano, Daniel Barenboim, quand je lui en ai parlé, ne savait même pas que Nadia Boulanger avait composé. Donc elle était très sévère vis-à-vis d'elle-même et je pense qu'elle voulait transmettre cette exigence pour la musique. Mais les gens venaient la voir. Je ne pense pas qu'elle allait chercher les élèves pour les asseoir derrière le piano. Les gens venaient la voir, les élèves, les musiciens du monde entier. C'est très impressionnant, hein, la palette mondiale des musiciens qui sont venus la voir.
Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'elle était intransigeante et un peu un tantinet tyrannique, mais par exemple, elle n'a jamais fait payer les cours de Daniel Barenboim parce qu'elle savait que ses parents n'étaient pas capables de payer les leçons.
Oui, et puis elle n'a pas fait payer, par exemple, Quincy Jones n'a jamais payé un cours. Je crois qu'il lui a apporté des abricots au sirop.
Des pêches.
Des pêches, voilà, des pêches au sirop. Enfin, c'est rigolo, il y a plein d'histoires comme ça, donc... Voilà, c'était quelqu'un de profondément humain, Nadia Boulanger. À travers ce que j'ai pu, en tout cas, lire et entendre, voilà, c'était une femme très humaine.
Un autre de ses élèves que vous avez rencontré aussi, oui. Astrix Cyranocion, c'est Michel Legrand.
Oui.
On l'écoute.
Nadia Boulanger a été mon maître, elle m'a tout appris. Chez Nadia Boulanger, on apprenait la poésie, la littérature, on apprenait la musique, bien sûr, on apprenait... la peinture, les arts, on apprenait l'amitié, on apprenait les relations, on apprenait tout ce qui était de la musique et autour. Et c'était, on apprenait la vie, quoi, finalement. Tout à coup, la vie s'élargissait. On parlait de tout, sauf du superflu, de l'inutile. Nadia Boulanger, elle savait tout. Moi, je me rappelle que des fois, je voulais l'étrangler, car elle était tellement exigeante. Mais non, avec elle, il faut travailler, il faut apprendre toujours. Elle m'a dit, tu sais, mon petit, quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de travailler, de sauter une nuit par semaine pour travailler un peu plus. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé de passer deux nuits par semaine pour travailler plus.
Et elle finissait en disant, Nadia Boulanger, Mademoiselle Boulanger, c'est pour ça que je suis fatiguée, je n'ai pas assez dormi dans ma vie.
C'est émouvant, je trouve vraiment de parler d'un maître avec ses mots, tout en disant qu'on avait envie de l'étrangler.
C'est quand ça même vous est arrivé?
D'avoir envie d'étrangler mon professeur?
Oui.
Oui. Bon, peut-être pas jusqu'à aller à l'étrangler, mais oui, j'ai eu un professeur russe, Ivan Monighetti, qui a été tyrannique avec moi. Mais au final, grâce à lui, j'ai appris tellement et puis je lui dois énormément. Donc, sur le moment, c'est humiliant, c'est difficile, on est perdu, on ne sait pas où on va, on se dit je suis nulle. C'est des remises en question, mais qu'est-ce que ça sert finalement d'avoir eu des exemples et des personnes qui nous transmettent, peut-être de manière un peu maladroite. Mais ça forge. Je pense que c'est très important quand on fait un métier artistique, qu'on commence quand on a 5 ans et qu'on finit, je pense, une fois qu'on n'est plus de ce monde. Donc il faut avoir une exigence, sinon on se lasse et on ne permet pas au public de se satisfaire aussi d'un renouvellement artistique.
Je crois, Astrix Cyranocion, que vous avez fait des recherches à la BNF
oui.
pour en savoir plus sur cette mademoiselle Nadia Boulanger. Et vous avez retrouvé des lettres.
J'ai retrouvé, c'est d'ailleurs un monde merveilleux, la Bibliothèque Nationale de France. Si on a l'occasion d'avoir envie de nourrir sa curiosité, c'est vraiment un lieu génial. Et donc j'ai trouvé, il y a une partie des fonds de Nadia Boulanger et une partie de sa correspondance reçue évidemment. Par curiosité, quand j'ai préparé l'album, je me suis dit « Ah mais allons voir avec qui elle a correspondu ». Et c'est incroyable, je pense qu'elle a une correspondance de milliers de lettres avec des personnalités, toutes les personnalités artistiques de l'époque, hein, en passant par les poètes, les écrivains, même des billets de...
Elle était amie avec Paul Valéry. Hein.
Exactement, très amie avec Paul Valéry. Mais même j'ai même retrouvé des billets du général de Gaulle. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable. Et donc j'ai trouvé plusieurs lettres de Michel Legrand. Je veux bien vous en lire une qui m'a particulièrement émue. Elle est adressée à Mademoiselle Boulanger, au 36 rue Balue, dans le 9e arrondissement de Paris. Paris, 30 novembre 1976. Chère mademoiselle, j'ai été très touchée de votre lettre, très émue toujours de tout ce qui me lie à vous, de ce passé, de toutes ces merveilles que je porte venant de vous, de votre rayonnante présence cependant que je vous rencontre si peu. De ces longues conversations exaltantes de gratitude à votre égard avec d'autres de vos élèves qui jalonnent le monde. De ces merveilleuses nouveautés découvertes grâce à vous que je connaissais déjà par votre enseignement. De cet éveil constant de l'esprit que j'appris de vous, enfin, d'être riche de votre voix. Il n'est point de mots de remerciement, seulement peut-être que la vie est bouleversante avec ceux que l'on aime. Je vous embrasse tendrement, Michel Legrand.
Jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de la violoncelliste Astrid Cyrano-Sian. En octobre 1994, vous donniez votre premier concert de violoncelle alors que vous n'aviez que 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes une musicienne reconnue, vous jouez dans le monde entier avec les plus grands chefs d'orchestre. Et c'est au cours de vos tournées et de vos rencontres que vous avez entendu parler de Madame Mademoiselle Nadia Boulanger. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'enregistrer un disque hommage à Nadia Boulanger dans lequel vous jouez quelques-unes des compositions de ses plus illustres élèves. Mais quel rapport peut-il donc y avoir entre Michael Jackson et Nadia Boulanger, Astrid Cyrano-Sian? Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y en a un, et c'est celui-ci. Alors Astrid, quel rapport entre Michael Jackson et Nadia Boulanger?
Le rapport entre Nadia Boulanger et Michael Jackson, c'est Quincy Jones.
Qu'on entend en ce moment, interprété par vos soins.
Oui, que nous avons arrangé avec le pianiste Nathanaël Gouin, qui est le pianiste sur cet album avec Daniel Barenboim. Mais oui, je trouvais ça aussi extraordinaire de me dire qu'entre la musique extrêmement classique qui découle de Beethoven, Gabriel Fauré et Michael Jackson, il y avait vraiment finalement pas grand-chose.
Ce que vous voulez dire, parce que vous ne l'avez pas dit, c'est que c'est Quincy Jones qui a produit Michael Jackson. Et Quincy Jones a été l'élève de Mademoiselle Boulanger.
Exactement.
Donc on peut penser que dans Michael Jackson, il y a un peu de Nadia Boulanger.
Eh bien, tout à l'heure, nous avons écouté un titre tiré de Off the Wall, qui est l'album de la première collaboration entre Quincy Jones et Michael Jackson en 1979. Sorti en 1979, Nadia Boulanger était encore de ce monde. Et quand on connaît la préparation de cet album qui a duré presque un an entre l'enregistrement, le mixage et autres, on se dit que l'exigence qui a été mise et le travail qui a été fourni pour réussir à avoir un album de Michael Jackson produit par Quincy Jones, pour moi, il y a un lien évident. C'est-à-dire que pour que Quincy Jones ait été exigeant, c'est que lui-même a eu un enseignement extrêmement et excessivement exigeant de la part de Nadia Boulanger. Et évidemment, c'est Quincy Jones a transmis ça à Michael Jackson, et c'est ce que je trouve absolument fabuleux. Et de temps en temps, je me dis que le rapport entre la musique classique et la musique pop, funk, soul, est extrêmement lié. On fait malheureusement des séparations, et je trouve ça très dommage.
Je vous donne le tempo. Attendez, j'accepte de vous dire que c'est ré, j'accepte de vous dire que c'est en si mineur, j'accepte de vous dire rien d'autre. Alors, quand vous composez, j'aime mieux que vous vous trompiez si vous vous trompez, mais que vous restiez naturel et que vous restiez libre, que si vous commencez à vouloir paraître autre que ce que vous êtes. Je me souviens un jour où Stravinsky dînait ici, et il y avait un monsieur assis à la place d'Émile. Et Stravinsky tenait le monsieur par le veston avec violence. Et le monsieur écrabouillé lui dit « Mais monsieur Stravinsky, je ne comprends pas pourquoi nous discutons comme ça. Je suis de votre avis. » Et Stravinsky avec fureur lui dit « Oui, mais pour de mauvaises raisons, donc vous avez tort. » Alors on peut chercher pour une bonne raison ou on peut chercher pour de mauvaises raisons. Si on cherche pour cacher sa misère, on a tort. Si on cherche pour dire ce qu'on voudrait vraiment dire, on le doit. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important que le professeur laisse d'abord l'élève jouer comme il veut, et puis être impitoyable sur les questions de discipline qu'il faut passer pour arriver à le faire.
C'était un cours de composition de Nadia Boulanger qu'elle donnait chez elle le mercredi rue Balue.
Exactement.
Et je trouvais que cette archive était très intéressante de Astrix Cyranossian parce qu'elle avait la préoccupation de ne jamais chercher à modeler ses élèves. Elle a toujours essayé de chercher et de les laisser exprimer leur singularité.
Exactement.
C'est pour ça que c'était une grande pédagogue, non ?
C'est ce qui fait la richesse de son enseignement, c'est qu'elle n'a jamais voulu transformer les élèves qu'elle avait à sa manière. Non, elle a voulu les laisser se développer comme ils étaient, avec leur personnalité, mais en leur donnant les moyens et l'exigence qu'il faut pour qu'ils puissent arriver au meilleur de qui ils étaient. Et ça, c'est une preuve d'amour que je trouve absolument incroyable. Elle n'a jamais eu d'enfant, Nadia Boulanger, mais finalement, c'est très maternant d'avoir, c'est très aimant, maternant d'avoir pris chaque individualité comme elle était, et puis de se dire, bah voilà, je vais essayer de comprendre qui est Astor Piazzolla, qui est Michel Legrand, qui est Quincy Jones, et non pas d'aller le modifier, mais simplement de l'embellir.
Alors vous parliez de Astor Piazzolla, qui a été un des élèves de Nadia Boulanger, et c'est elle qui lui a donné la conscience qu'il fallait qu'il revienne à ses origines, et qu'il fasse sa propre musique, et qu'il ne copie pas la musique occidentale.
Thank you.
Astor Piazzolla au bandoneon dans une de ses compositions dirigée par Horacio Ferrer. Voilà ce que vous écoutez, Astrix Cyranocian. Je crois que vous avez retrouvé des lettres aussi de Astor Piazzolla, des lettres qu'il a envoyées à Mademoiselle Boulanger.
J'ai retrouvé des lettres d'Astor Piazzolla, très émouvantes parce que les enveloppes arrivent tout droit de Buenos Aires. Et cette année d'ailleurs, en 2021, c'est le centenaire de la naissance de Astor Piazzolla. Donc, Astor Piazzolla arrive d'Argentine à Paris avec des compositions européanisantes, absolument dénudées de toute influence argentine. Et puis au bout d'un an, Nadia Boulanger trouve qu'il est sacrément limité au niveau de l'inspiration et que ce qu'il écrit, c'est vraiment, ça reste de la deuxième main. Donc elle lui dit, mais enfin Astor, mais que faisiez-vous quand vous étiez en Argentine avant de venir à Paris étudier dans mes classes? Et il sort son bandoneon et il joue du bandoneon. Et là elle lui dit, mais c'est fabuleux, mais c'est ça. C'est le sang qui coule dans vos veines, c'est la musique de votre cœur. Il faut absolument que vous reveniez à ça. Et donc le Astor Piazzolla que nous connaissons maintenant n'est pas du tout le Astor Piazzolla qui est arrivé à Paris avec ses compositions sous le bras. Donc j'ai retrouvé une lettre très émouvante qui date du 9 mai 1955 et qui a été envoyée au 36 rue Ballu dans le 9e arrondissement de Paris depuis Buenos Aires. Chère Mademoiselle Boulanger, je vous écris au 20e jour de mon arrivée dans mon pays et je suis très heureux d'avoir retrouvé mes enfants. Mais il est très difficile d'oublier Nadia Boulanger. Croyez-moi, je parle de vous à tout le monde ici et notre photo a même été publiée dans le journal. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je vous envoie, joint à ce courrier, une copie de l'hymne que j'ai composé pour le concours des Jeux Olympiques. Je sais que je n'ai aucune chance de gagner, mais j'adorerais que vous me corrigiez. J'adorerais également avoir votre avis sur une mélodie, si celle ne vous dérange évidemment pas, que je dédie à mes deux enfants, Diana et Daniel. J'espère sincèrement que vous me pardonnerez toutes ces demandes excessives. J'espère également revenir très vite à Paris et emmener mes deux enfants dans votre appartement. Votre élève et éternel ami, Astor Piazzolla.
Oh, c'est magnifique.
Ah oui, mais c'était l'étude des lettres, la correspondance de Nadia Boulanger, ça a été une succession d'émotions. Puis surtout, ce qui m'a énormément émue, c'est l'écriture manuscrite. De chacun. De chacun qu'on perd complètement actuellement. On s'envoie des textos, des emails, mais c'est très émouvant. L'écriture manuscrite, c'est l'âme de quelqu'un sur le papier. Les lettres de Astor Piazzolla, il y a des ratures, ça déborde. Voilà, c'était très émouvant. J'ai adoré replonger dans cette époque riche de couleurs, riche d'émotions.
Alors, en cherchant à la BNF, dans la correspondance de Nadia Boulanger, vous avez fait aussi des découvertes, Astrix Cyranocian. Vous avez, par exemple, trouvé des lettres de Poilu.
Alors, en fait, ces lettres de Poilu, je les ai retrouvées à travers un ami musicologue qui s'appelle Nicolas Dufetel. Et ces archives-là de ces lettres ne sont pas à la BNF, mais elles sont à la Juilliard, aux États-Unis. Voilà, donc elle a quand même aussi de nombreuses archives aux États-Unis. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, Nadia Boulanger se dit « mais il faut faire quelque chose pour venir en aide », donc des concerts de charité. Pour venir en aide aux musiciens qui sont engagés dans les tranchées. Elle se lie d'amitié avec le maestro Walter Damrosch et ensemble, ce sera d'ailleurs le début de la création d'une amitié franco-américaine musicale qui donnera lieu ensuite à l'Académie de Fontainebleau qui existe toujours. Et donc avec Walter Damrosch, ils font des concerts de charité. Elle dirige d'ailleurs, Nadia Boulanger. Et l'argent reçu est reversé directement aux poilus musiciens dans les tranchées et aux familles. Et donc Nadia Boulanger demande à ces musiciens qui sont dans les tranchées de faire une lettre de remerciement. Et donc ce que j'ai retrouvé, c'était les lettres de remerciement qui venaient tout droit des tranchées.
Alors vous allez nous en lire, mais les concerts se donnaient où exactement?
Alors les concerts se donnaient en France et aux États-Unis. Et donc voilà, c'était vraiment dans le but de venir en aide aux musiciens engagés dans la Première Guerre mondiale.
Et c'est elle qui ils écoutaient ces concerts?
Non, puisqu'ils étaient dans les tranchées, ils avaient juste connaissance que des concerts étaient faits et que l'argent leur était reversé.
D'accord, donc ils n'ont pas écouté ces concerts que dirigeait Mademoiselle Boulanger.
Non.
Et alors, dites-moi ce que vous avez trouvé à la Juilliard.
Je vous lis une lettre qui date du 30 juillet 1918, adressée à Monsieur Walter Damrosch. Ceux du front qui peinent et qui souffrent pour le salut de notre France éprouvent un doux réconfort de savoir que des hommes de grand cœur pensent au sort des familles privées de leur soutien. Permettez-moi, cher Monsieur Damrosch, de vous exprimer ma très vive reconnaissance pour l'aide si efficace que vous apportez à notre grande camarade Nadia Boulanger dans l'accomplissement de ce devoir si humain auquel elle s'est consacrée. Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments respectueusement dévoués. Gaston Petit, musicien brancardier, 74e régiment d'infanterie, orchestre de l'Opéra Comique.
I come from a small town, how about you? I only mention it 'cause I'm ready to leave LA and I want you to come. 80 miles north or south will do. I don't care where as long as you're with me and I'm with you and you let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine like a diamond. Let me be who I'm meant to be. Talk to me in poems and songs. Don't make me be bittersweet. Let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. I could manage if you stay. It's just if you do, I can't see myself having any fun. So let me love you like a woman. Let me hold you like a baby. Let me shine like a diamond. Let me be who I'm meant to be. Talk to me in song.
Journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
En octobre 1994, Astrix Cyrano-Sion, vous donniez donc votre premier concert de violoncelle alors que vous n'aviez que 5 ans. Ce n'était pas facile de trouver des événements sur lesquels vous puissiez réagir vu que vous étiez encore toute petite. Mais quand même, en 1994, Astrix, la guerre faisait déjà rage au Nagorno-Karabakh. Et depuis la dislocation de l'Union soviétique en 91, les Arméniens se sont battus pour que le territoire du Nagorno-Karabakh soit rattaché à l'Arménie.
Exactement, oui. C'est triste de se dire que la guerre qui a été très actuelle en 2020 avait déjà commencé il y a 30 ans.
En 94.
En 94, et qui avait qui s'est terminée en 94. Évidemment, enfant, je n'étais absolument pas au courant de ces événements. Mes parents, évidemment, me protégeaient, ne parlaient pas de guerre ou autre avec moi. Mais oui, c'est vrai que ça concordait également avec l'année de mon premier concert en 94.
Le 12 mai 1994, une trêve est négociée et les combats s'arrêtent entre les Arméniens et l'armée azerbaïdjanaise.
Voilà.
Si avant on se battait seulement avec les Kalachnikov, il y a plus qu'un an, il y a un an et demi, aujourd'hui on se bat avec des chars lourds, les Azeris ont des avions de combat, des hélicoptères, de l'artillerie lourde, les grades, c'est une vraie guerre. Une guerre oubliée, une guerre très grave qui est en train de causer des victimes très importantes.
Six mois après cet entretien, Melkonian trouvait la mort le 12 juin 1993 dans un petit village du sud-est du Karabakh. L'Arménie l'enterra comme un héros national. Eux vivent un calvaire quotidien. Ils sont 300, 400 000 réfugiés, tous déplacés, chassés par la guerre. Arméniens venus d'Azerbaïdjan ou du Karabakh lui-même. Un dixième de la population s'est retrouvé sur les routes. Harcelés par la maladie, la faim et le froid.
Assek Cyranocian, c'était une archive de 1994.
Oui.
Il se trouve que cette guerre a repris cette année.
Oui,
et les Arméniens ont perdu.
Oui, les Arméniens ont perdu. Et je me suis rendue sur place d'ailleurs à plusieurs reprises. L'archive que nous avons entendue était de Monte Melkonian. Je suis allée dans la ville où... qu'il avait remporté en 94, la ville de Mardouni, qui a été une fois de plus bombardée cette fois-ci pendant la guerre. Voilà, ça a été une guerre absolument terrible. Je pense que c'était plutôt une épuration ethnique qui a eu lieu, en fait, en Artsakh, c'est le nom arménien du Nagorno-Karabakh. C'était terrible. Moi, j'ai voulu y aller en tant que musicienne pour apporter de l'aide humanitaire aux enfants réfugiés, puisqu'il faut savoir que 80% de la population a été déplacée, qu'il y a beaucoup de réfugiés, que l'Azerbaïdjan, grâce à leur fortune
et à l'aide de la Turquie.
À l'aide de la Turquie et puis surtout le fait qu'ils ont du pétrole, du gaz et puis énormément d'échanges commerciaux avec l'Europe, notamment de gaz et de pétrole. Ça leur a donné beaucoup de richesses pour pouvoir s'armer de drones, ils ont utilisé des bombes au phosphore, ils ont utilisé évidemment ce sont des choses qu'ils leur nient évidemment ne le disent pas, mais je l'ai vu, j'ai vu des soldats quand je suis allée en Arménie brûlés avec par des armes chimiques, des populations civiles qui ont été touchées. Après le cessez-le-feu qui a été signé, il y a eu des vidéos de d'égorgement de civils âgés. Enfin voilà, ça a vraiment été une barbarie incroyable. Le silence de la communauté internationale a été insoutenable. Moi, je suis française d'origine arménienne, mais je suis française et d'avoir été complètement impuissante avec un silence vraiment horrible. C'est un petit peu une histoire qui se répète pour les Arméniens. C'est insoutenable en fait, c'est surtout insoutenable en tant qu'humain de se dire que il peut y avoir une épuration ethnique dans un silence complet. Pendant le génocide arménien en 1915, on disait nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas assez de photos, pas assez de vidéos. En 2020, on a tout ce qu'il faut, mais ça ne change pas, la communauté internationale ne bouge pas.
Je pense à la Syrie quand vous parlez aussi
oui.
Comme ça, je pense aussi à la Syrie. Merci Astrid Cyranocian d'avoir passé cette heure avec nous. Votre disque, donc « Dire Mademoiselle » en hommage à Nadia Boulanger, est édité chez Alpha Classique. Et avec vous au piano, donc vous l'avez dit, Nathanaël Gouin et Daniel Barenboim. Vous allez bientôt remonter sur scène, Astrid ?
Alors, sur scène, je devais remonter. Malheureusement, ça a été annulé. Mais j'ai la grande joie, au mois de janvier, d'aller enregistrer Concerto de Saint-Saëns, puisque c'est aussi un centenaire 2021 de Camille Saint-Saëns. Mais la scène me manque, le public me manque beaucoup. Et puis maintenant, quand on remonte sur scène, on a des publics masqués. Je repense à ce souvenir d'enfant. La première fois où je suis montée sur scène et j'ai vu un public démasqué, je souhaite très vivement que très vite je remonte sur scène avec un public démasqué.
C'était une journée particulière, Une émission préparée par Hugo Combes, à la programmation musicale Thierry Dupin, à la réalisation Xavier Pestugia et à la technique aujourd'hui Paul Percheron. Je vous souhaite une bonne année. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.